secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'équipe de France de rugby à 15, aussi connue sous les noms de 15 de France, des Bleus ou encore des Tricolores. C'est l'histoire du rugby français. Le rugby à 15 est introduit en France en 1872 par des marchands anglais qui fondent le Havre Athletic Club Rugby. Une sélection de joueurs parisiens précurseurs de l'équipe de France gagne le titre aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. La France remportera deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques de 1920 et 1924. Le premier match officiel de l'équipe de France a lieu le 1er janvier 1906, soit près de 30 ans après celui de l'Angleterre. Cette première sortie s'achève sur une sévère défaite, 38 à 8, face à la Nouvelle-Zélande, alors en tournée sur le continent européen. En 1910, la France est admise à participer au tournoi des 5 nations, opposant l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, et fait ainsi son apprentissage du rugby international en se mesurant à ses équipes. De 1906 à 1914, l'équipe de France dispute 28 rencontres internationales et remporte une seule victoire contre l'Écosse le 2 janvier 1911 sur le score de 16 à 15. C'est sa première victoire internationale. Dans cette équipe, conduite par le centralien Marcel Communeau de Beauvais, l'ailier Pierre Fayot, surnommé l'autobus, centralien lui aussi, et médaille d'argent à l'athlétisme aux Jeux Olympiques de Stockholm 1912, se met en évidence en marquant deux essais. Ensuite, la Première Guerre mondiale a eu des effets importants sur le rugby. 121 des 424 sportifs de haut niveau qui ne sont pas revenus du front étaient des adeptes du jeu à 15. On retiendra quelques jeunes gens que l'histoire a broyés, Aimé Giral à Perpignan, Maurice Boyau à Dax ou Alfred Armandie à Agen. L'histoire du rugby français dans l'entre-deux-guerres est celle d'une passion qui a mal tourné. Les années 1920 furent apparemment fastes, le rugby est à la mode, le coq devient l'un des symboles officieux et indémodables du sport français. L'équipe de France de rugby à 15 l'a pour sa part adoptée en 1922 pour la première fois sur les maillots contre le Pays de Galles. Et le 11 octobre 1920, naît la Fédération française de rugby. La victoire acquise le 2 avril 1927 a une importance particulière car c'est la première obtenue contre l'Angleterre. Jusqu'à cette date, la France avait perdu 15 des 16 rencontres contre les Anglais et avait fait au mieux match nul en 1922. Adolphe Jauregui est le capitaine du 15 de France qui a réussi cette performance. L'année suivante, le 9 avril 1928, il conduit à nouveau son équipe pour une première victoire contre l'équipe du Pays de Galles. En 1931, la France est exclue du tournoi pour professionnalisme, paiement de joueurs, recrutement interclub et en raison du jeu violent lors de certains matchs. La finale de 1929, la finale de l'Aude, opposant Quillan à Lézignan, dont Quillan sortira vainqueur, est dans toutes les mémoires. Les coups pleuvent sur le terrain comme en tribune. Le match France-Galles du tournoi 1930 est d'une extrême brutalité, aussi bien sur la pelouse avec de nombreux joueurs blessés que parmi les spectateurs, car ces derniers étaient pressés les uns contre les autres dans les tribunes ou sur le bord de touche, tandis qu'à l'entrée du stade, près de 20 000 spectateurs potentiels n'avaient pu assister au match. Une majorité de clubs dénonce aussi le professionnalisme pratiqué par les meilleures équipes et font sécession en décembre 1930 en fondant l'Union française de rugby amateur, l'UFRA. Ils refusent que leurs joueurs soient sélectionnés en équipe de France, ce qui abaisse sensiblement le niveau de l'équipe. Pendant cette période, l'équipe de France rencontre uniquement des équipes d'un niveau inférieur à celui des équipes britanniques, celles d'Italie, de l'Allemagne et de la Roumanie. L'intransigeance de la Fédération française de rugby que l'UFRA avait pourtant réintégré à la fin de la saison 1931-1932, est tel que Jean Gallia, capitaine du 15 de France, franchit le Rubicon et entraîne avec lui une partie non négligeable de l'élite rugbystique française, dont l'exceptionnel demi de mêlée Max Roussier vers le rugby à 13, dont une fédération est créée en 1934. La France est de nouveau admise dans le tournoi en 1939, après que la Fédération française de rugby ait trouvé un accord en 1932 avec les clubs entrés en dissidence. La Seconde Guerre mondiale interrompt le tournoi pendant plusieurs années. Le 19 décembre 1941, un décret de Pétain dissout la Ligue française de rugby à 13, comme si le 13 avait été assimilé au Front populaire et à Léon Blum, à la défaite. Le rugby à 13 a été assassiné par son frère ennemi, le rugby à 15. C'est le résultat de l'action conjuguée du secrétaire d'État à la famille et à la jeunesse, le basque Jean Ibarnegaray, et du directeur des sports, l'ancien joueur à 15 de Perpignan, Jep Pascoe. Le tout sous la férule de Jean Brotra, l'ancien tennisman qui avait un peu goûté jeune au ballon ovale en Pays basque, ainsi que de Paul Voivenel, médecin, notable toulousain, homme de lettres, pétainiste, féru de rugby, auteur de Mambo Rugby. Si la Ligue de rugby à 13 a repris ses activités en septembre 1944, elle a dû, sous la pression du rugby à 15, et pour obtenir l'agrément définitif, prendre un nouveau nom, Fédération française de jeu à 13. Cela ne fut jamais accepté par ses adeptes, qui tentèrent à plusieurs reprises de recouvrer leur appellation initiale de rugby à 13. Finalement, le 4 juin 1993, la justice française, par un arrêt de la Cour de cassation, a donné raison aux 13istes. L'équipe de France participe à la reprise du tournoi des Cinq Nations à partir de 1947. Les tricolores poursuivent leur progression. Il faut attendre le milieu des années 1950 où le 15 de France atteint le niveau des équipes britanniques et remporte la première de ses victoires dans le tournoi en 1954. En 1954, la France bat les All Blacks chez elle grâce à un essai de Jean Prat. Pendant ce temps, l'équipe de France, 13iste dans le sillage de Piobert, dit Pipette, allait multiplier les exploits. Une Coupe du monde de rugby league fut organisée en France en 1954, qui, malgré la défaite de la France en finale contre l'Angleterre 16-12, confirma le succès populaire et sportif du 13 en France. Succès sans lendemain. En 1958, l'équipe de France de rugby à 15 a réalisé un magnifique exploit en allant battre sur leur terre les Sud-Africains. On est le 16 août 1958. Les Bleus, pourtant affaiblis par l'absence de joueurs importants, battent leurs hôtes à Johannesburg, 9-5. Une victoire de légende. Dans la continuité de son succès en Afrique du Sud en 1958, l'équipe de France remporte seule le tournoi pour la première fois, victoire non partagée avec une autre équipe, en 1959, sous la conduite de Lucien Mias. Ces équipes de France qui remportent ces premières victoires dans le tournoi comprennent de nombreux joueurs de talent comme Alfred Roch, Amédée Domenech, Lucien Mias, François Monclat, Michel Crost, Michel Celaya, André et Guy Boniface, Christian Darouille et Pierre Albaladejo. En 1968, le 15 de France signe son premier grand chelem. 9 autres suivront jusqu'en 2023 sous le capitanat de Christian Carrère et avec des joueurs renommés tels que Benoît Doga, Walter Spanghero, Pierre Villepreux, les frères Cambera-Béraud. Les années 1970 consacrent une forte rivalité entre Gallois et Français. Jacques Fourroux est le capitaine de l'équipe qui réalise le Grand Chelem en 1977. Il forme avec Jean-Pierre Homeux une paire de demi exemplaires. Cette année-là, l'équipe de France n'encaisse pas d'essai au cours des 4 rencontres du tournoi et surtout, c'est la même équipe de 15 joueurs qui dispute et gagne les 4 matchs. Le 14 juillet 1979, les tricolores s'imposent pour la première fois sur le sol néo-zélandais, 24-19. Le Grand Chelem de 1981 est réalisé une fois de plus grâce à une victoire acquise de haute lutte contre les Gallois à Paris, suivie par un succès à Twickenham contre les Anglais qui avaient pourtant réussi un Grand Chelem un an plus tôt. Le capitaine des Bleus, Jean-Pierre Rive, gagne alors le surnom de Casque d'Or qui souligne la vaillance dont il a fait preuve durant ce tournoi. 19 autres joueurs ont contribué à la conquête de ce grand chelem, notamment Robert Paparambode, Roland Bertrand et Guy Laporte. Les Bleus remportent un nouveau grand chelem en 1987. Ils ont alors Daniel Dubroca comme capitaine. Lors de la première Coupe du Monde en 1987, qui se déroule en Nouvelle-Zélande, les Bleus perdent en finale 29-9 face aux Néo-Zélandais, après avoir vaincu l'Australie en demi-finale 30-24. En 1991, la France est éliminée en quart de finale par les Anglais. Elle prend sa revanche lors de la Coupe du Monde 1995 avec une victoire contre ces mêmes Anglais pour la troisième place. Le 15 de France manque de peu une qualification en finale, car sur une pelouse gorgée d'eau en demi-finale à Durban, Abdelatif Benazi percute la défense des Springboks en fin de match et termine en glissant à quelques centimètres seulement de l'en-but sud-africain. Les Anglais dominent le rugby européen durant les années 1990 avec 6 tournois gagnés, dont 3 grands chelems. Mais la France se maintient à un haut niveau et rivalise avec les Anglais pour la suprématie en Europe. 3 tournois gagnés en 1993, 1997 et 1998, dont 2 grands chelems en 1997 et 1998, sous la conduite respective des capitaines Abdelatif Benazi et Raphaël Ibáñez. L'équipe de France comprend alors d'autres individualités marquantes comme Philippe Saint-André, Olivier Magne, Thomas Castagnède, Jean-Luc Sadourny. Pendant cette période, le 15 de France est entraîné successivement par Daniel Dubroca et Jean Triot, 1990-1991, Pierre Barbizier, de 1991 à 1995, Jean-Claude Scrella, de 1995 à 1999. En 1994, les Bleus gagnent les 2 test matchs de la tournée en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, puis à Auckland. La performance est plus forte qu'en 1979, avec à la clé l'essai du bout du monde, celui du 3 juillet, qui restera dans l'histoire. Le capitaine de la tournée est Philippe Saint-André. Le 15 de France est finaliste de la Coupe du Monde 1999, après avoir battu de manière époustouflante les All Blacks en demi-finale par 43-31. Les Bleus sont cependant battus en finale par l'Australie sur le score de 35-12. Ils atteignent le même niveau de performance qu'en 1987. L'équipe de France effectue de très bons débuts dans les années 2000 avec 4 tournois gagnés en 2002, 2004, 2006 et 2007, dont 2 grands chelems en 2002 et 2004. Fabien Pelousse, Fabien Galthié, Olivier Magne et Raphaël Ibáñez sont capitaines d'équipe lors des 2 grands chelems réussis. Ces succès sont à mettre aussi au crédit de Bernard Laporte, qui entraîne cette équipe depuis 1999, fonction qu'il occupe jusqu'au terme de la Coupe du Monde 2007. La France termine 4e de la Coupe du Monde 2003 en Australie, battue par l'équipe d'Angleterre en demi-finale sur le score de 7 à 24, les 24 points anglais étant marqués par les drops et pénalités de Johnny Wilkinson. L'équipe d'Angleterre remporte cette Coupe du Monde 2003 en battant les Wallabies en finale 20 à 17. L'équipe de France déçoit lors de la Coupe du Monde 2007 qu'elle organise. Les Bleus terminent 4e après avoir été éliminés successivement par les Anglais en demi-finale et par les Argentins lors de la petite finale. Pourtant, leur victoire contre les All Blacks en quart de finale avait entretenu l'espoir d'une première victoire en Coupe du Monde. En 2010, la France remporte le 9e grand chelem de son histoire, l'année même de son centenaire dans le tournoi. Ce succès est en large partie dû à la supériorité du pack emmené par Morgan Parra. Le 23 octobre 2011, la France perd en finale de la Coupe du Monde 2011 sur le score de 8 à 7 contre la Nouvelle-Zélande. Ce jour-là, les Français étaient meilleurs. Le capitaine français du sautoir est sacré meilleur joueur de rugby du monde. À la Coupe du Monde 2015, les Français subissent un revers historique en quart de finale contre les All Blacks, 62 à 13. L'entraîneur Philippe Saint-André cède sa place au légendaire entraîneur du Stade toulousain, Guy Novès, qui ne fera que 2 ans, de 2016 à 2017. À la Coupe du Monde 2019, la France affronte le Pays de Galles en quart de finale. Malgré un match très abouti de la part des Français, le 15 de France s'incline 20 à 19, après avoir marqué 3 essais, mais joué plus de 30 minutes à 14 à la suite du carton rouge de Sébastien Vahamahina. De nombreux jeunes joueurs comme Antoine Dupont ou Damien Penaud ont impressionné la planète Ovalie et ont pris date pour le futur. Sous l'ère Fabien Galthié, à partir de 2020, le 15 de France renouvelé enchaîne les bons résultats et remonte au classement mondial. Remportant son 10e grand chelem, 12 ans après le précédent, à l'issue du tournoi des 6 nations 2022. En novembre 2022, la France bat l'Australie en tournée d'automne, puis l'Afrique du Sud et le Japon, poursuivant sa série record d'invincibilité portée à 14 victoires consécutives en ouverture du tournoi Destination 2023 en Italie. Cette série record prend fin le 11 février 2023, lors du déplacement en Irlande et de la défaite 32 à 19 contre sans doute la meilleure équipe du monde actuelle. Lors du même tournoi, le 15 de France inflige à l'Angleterre la plus lourde défaite de son histoire à domicile, 53-10, sur la pelouse de Twickenham, où il ne s'était plus imposé depuis 2005. Lors de la Coupe du Monde 2023 qui se déroule en France, la France affrontera en poule la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. Le record de sélection dans le 15 de France est détenu par Fabien Pelousse, 118 sélections, qui a dépassé Philippe Sella et ses 111 sélections le 18 août 2007. Suivent Raphaël Ibáñez, 98, Serge Blanco, 93, Olivier Magne, 89, Damien Traille, 86. Un peu d'histoire. Aimé Cassaillé-Armagnac, 31 sélections entre 1920 et 1927, partage le record de sélection avec Adolphe Jauregui, international de 1920 à 1931. C'est Eugène Ribert, international de 1924 à 1933, qui leur succède en portant ce record à 33 sélections. Le record est ensuite porté à 51 sélections par Jean Prat, international de 1945 à 1955. Son successeur au nombre de sélections est Michel Crost, qui porte ce record à 62 sélections au terme de sa carrière internationale en 1966. Benoît Dauga obtient sa 62e sélection en 1972 face à l'Irlande, avant de porter son total à 63 face au Pays de Galles deux mois plus tard. Il est rejoint en 1981 par Roland Bertrand lors d'une rencontre face à l'Écosse. Bertrand totalise 69 sélections au terme de sa carrière en novembre de la même année. Serge Blanco porte ce record à 93 sélections lors de la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde 1991 face aux Anglais. Deux ans plus tard, il est rejoint par Philippe Sella lors d'une victoire face aux Australiens, ces derniers remportant le match suivant où Sella devient également le joueur le plus capé au monde. Il termine sa carrière avec 111 sélections. Fabien Pelousse égale ce record lors d'un match de préparation à la Coupe du Monde 2007 à Twickenham avant de le dépasser une semaine plus tard, toujours face aux Anglais à Marseille. Frédéric Michalak s'empare de la place de meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France le 22 août 2015 lors de la 101e confrontation entre la France et l'Angleterre. Il totalise 436 points devant Christophe Lamaison, 380, Dimitri Yachvili, 373, Morgan Parra, 370, Thierry Lacroix, 367, Didier Cambera-Béro, 354, Gérald Merceron, 267, Jean-Pierre Romeu, 265, Thomas Castagnette, 252 et Serge Blanco, 233. À ce jour, Blanco est le meilleur réalisateur d'essais, 38, devant Vincent Clerc, 34, et Philippe Saint-André, 32. En outre, le record de transformation réussie est détenu par Christophe Lamaison, 59 transformations. Le record de pénalités réussies est détenu par Thierry Lacroix, avec 89 pénalités, et celui de drop, par Jean-Patrick Lescarboura, avec 15 drops réussis.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.